Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, votre émission quotidienne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 24 septembre 2021. Il fait beau dans le Beaujolais. Les températures montent à 24 degrés cet après-midi. Le beau temps continue comme ça jusqu'à samedi soir à peu près, où la patatras, ce sera le début des orages et des averses qui risquent de durer toute la journée de dimanche. Au programme de notre émission, comme chaque vendredi maintenant, nous allons retrouver tout d'abord le prof Patrick pour une rubrique socio-économique. Et puis en fin d'émission, pour terminer en musique, c'est Pitch que l'on retrouvera par téléphone pour son choix musical de la semaine. Mais d'abord, on va recevoir notre invité du jour. Il s'agit aujourd'hui de Robert Hanskens, l'un des cofondateurs de l'association Claude Bernard, association créée en 2018 pour participer à la diffusion des connaissances et à l'information des publics, et en particulier des jeunes. Et c'est à travers notamment de cycles de conférences qu'il mène à bien ce vaste projet, en partenariat avec de nombreuses institutions d'enseignement et puis le musée Claude Bernard. Le cycle de conférences, il reprend dès aujourd'hui. Ça se passe ce vendredi 24 septembre. Rendez-vous au musée à Saint-Julien à partir de 15h pour aborder des thèmes comme le dictionnaire de Trévoux ou la conception philosophique de la science chez Claude Bernard. Pour nous présenter ces conférences et puis l'association Claude Bernard, avec nous en studio donc Robert Hanskens. Avant d'en parler en détail, on commence bien sûr en musique avec aujourd'hui, comme souvent le vendredi, une nouveauté. On écoute Miles Kane qui nous chante le titre Caroline. Nous sommes ensemble sur Calade. Il est 12h15, merci d'être avec nous.
my head, you'll be alright. Yeah, you're gonna be just fine, my Caroline. Yeah, you're gonna be just fine, my Caroline.
Miles Kane sur Khaled avec l'un de ses tout derniers titres, ça s'appelait Caroline.
Ensemble sur Khaled.
100.9 Khaled.
Allez, aujourd'hui dans Ensemble sur Khaled, on va parler de l'association Claude Bernard. Et pour nous en parler avec nous en studio, Robert Hansken. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous vos auditeurs. Merci de me donner l'opportunité de présenter notre association est encore très jeune.
Oui, effectivement.
Mais qui a eu une activité relativement importante jusqu'à ce que le Covid nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais nous sommes prêts à repartir à tout moment et donc nous attendons la décision des autorités sanitaires qui nous permettra ou non de reprendre nos activités habituelles le plus tôt possible.
L'association Claude Bernard, jeune association, effectivement, elle a été créée en 2018. Vous êtes l'un des cofondateurs.
Tout à fait.
Racontez-nous d'où est né le projet et comment ça a été créé.
Alors effectivement, je suis l'un des 9 cofondateurs de cette association et ces 9 personnes, dont beaucoup de scientifiques et de médecins d'ailleurs, nous avions proposé au musée Claude Bernard, après qu'il eût été rattaché à l'agglomération de Villefranche, Beaujolais-Saône, nous avions proposé d'instaurer un conseil scientifique afin d'éclairer les choix du musée dans son projet muséal qui s'est beaucoup étoffé ces dernières années. C'est vraiment un musée très intéressant à visiter.
Ouais.
Donc nous avions créer un conseil scientifique qui a marché jusqu'à 2018 sous cette forme informelle. C'était un conseil, on assistait à la directrice du musée dans ses choix notamment. Et puis, comme le musée est centré sur son objet social qui est la valorisation du musée, il nous avait semblé qu'il valait mieux créer une association pour pouvoir faire un peu plus la vocation de ce musée, qui est un partenaire majeur pour nous et qui figure d'ailleurs dans nos statuts au titre des partenaires.
Donc l'objectif, c'était de pouvoir sortir du musée et aller voir d'autres publics, d'autres
manières. Alors ça nous a donné des opportunités de recruter des adhérents, de publier des statuts, de créer un site web. Et même d'obtenir des subventions auprès des collectivités publiques afin de pouvoir développer nos activités, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Donc cette association a été créée en 2018, les statuts ont été déposés au mois de juillet 2018, et nous avons immédiatement entamé des démarches en tout genre, la création de conférences mensuelles dans les locaux du musée afin d'accroître la notoriété du musée et de vulgariser les apports scientifiques de Claude Bernard. Nous avons créé un site web afin que nos adhérents puissent et les lecteurs en général puissent connaître nos activités. Et nous avons instauré une journée de la médecine, de la science et de la société qui se déroule chaque année à l'occasion de la semaine de la science.
D'accord.
Donc en 2019, par exemple, nous avions eu le privilège de pouvoir accueillir René Friedman, qui est un gynécologue obstétricien de renommée mondiale, qui avait bien voulu nous donner une conférence sur les avancées de la procréation médicale assistée.
Ouais.
Et comme nous voulions faire le pont sur tous les âges de la vie, nous avions également invité le représentant départemental d'une association qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
D'accord.
Et qui nous avait donné l'actualité du sujet, les raisons pour lesquelles la loi Leonetti ne règle pas tout et a même du mal à se mettre en place dans le milieu hospitalier et le milieu de la médecine en général. Nous avions le projet en 2020 avec notre nouveau partenaire qui est le musée de Confluence à Lyon de créer un événement propre à Claude Bernard dans le cadre de leur propre semaine de la science. Ils devaient nous accueillir, nous avions un stand qui était prévu et malheureusement les dirigeants de ce musée ont dit avec le Covid nous annulons absolument toutes nos manifestations.
Et oui, depuis deux ans.
Donc nous n'avons pas pu faire une journée de la médecine, de la science en 2020 et en 2021 nous nous proposions de la rééditer mais nous n'avions pas pu non plus la faire. Donc là, pour le moment, nous restons en lien étroit avec le musée des Confluences, de manière à savoir si nous pouvons envisager avec eux de participer à l'organisation de leur journée de la science en nous accueillant, où nous prenons en charge absolument toute l'organisation.
En attendant, les activités que vous pouvez maintenir, vous avez quand même réussi à maintenir, je crois, pendant les années Covid, les conférences, non ? Vous avez réussi
à
garder ça en début.
Alors, nous avions dû arrêter les conférences, puisque le musée lui-même ne souhaitait plus accueillir du public dans ses locaux, parce que les conférences mensuelles se déroulent dans la salle polyvalente du musée Claude Bernard à Saint-Julien. Donc là, nous avons...
année blanche.
La possibilité de les reprendre avec, bien sûr, l'accord de la directrice du musée. Et donc, cet après-midi aura lieu la première conférence. C'est une conférence qui sera tout aussi intéressante que celles qui vont suivre, puisque nous avons un cycle de 10 conférences annuelles. Donc, la première conférence aura lieu cet après-midi. Donc, j'encourage les auditeurs qui pourraient se rendre disponibles à venir. Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour entrer dans le musée et assister à la conférence. La première conférence sera donnée sur le thème du dictionnaire de Trévoux. Le dictionnaire de Trévoux, c'est un vieux dictionnaire qui avait été perdu de vue et qui était le précurseur d'une encyclopédie du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
C'est-à-dire qu'à Trévoux a été inventé un dictionnaire avant même l'encyclopédie
Il a été créé entre 1704 et 1711. Et c'est une conférencière de renom, Isabelle Turcan, qui a décidé de le remettre au goût du jour. Et ce sera elle, notre conférencière de cet après-midi. C'est une spécialiste d'histoire de la langue française et de la lexicographie européenne. Et elle est actuellement, elle travaille sur un gros corpus d'archives historiques dans l'Ain. Et elle est professeure des universités à l'université de Lorraine. La deuxième conférence, puisque nous donnons généralement deux conférences, ce sera bien évidemment une conférence dédiée aux travaux de Claude Bernard. Et le thème de cette deuxième conférence est intitulé « La conception philosophique de la science chez Claude Bernard ». Et le conférencier sera Christian Furiat. Christian Furiat est l'un des cofondateur
de l'association
Claude Bernard et il a été chef de service à l'hôpital de Villefranche et il est aujourd'hui président de la Société d'Histoire de la Médecine à Lyon.
Je crois que dans la thématique de cette conférence, ce qui est abordé, c'est Claude Bernard, c'est l'un des premiers scientifiques à avoir une approche vraiment cartésienne de la science et à rejeter certaines idées.
Il a fait entrer la médecine dans ce qu'on appelait les sciences positives, c'est-à-dire qu'après les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine s'est détachée d'une vision sacralisée du monde où, en fait, c'était...
La religion entre en jeu dans la médecine.
Médecin soigné, mais Dieu guérissait, en fait. C'est pas ça. Et donc, il a, en fait, écrit son ouvrage majeur, qui est l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, où il... En fait, c'est la médecine par la preuve, en quelque sorte, pour résumer son ouvrage. Et donc, c'est cet ouvrage qui est toujours un ouvrage de référence, qui est plus connu dans les universités médicales à l'étranger qu'en France.
C'est vrai. Et c'est la méthode, je crois, qu'on utilise encore aujourd'hui.
Oui, alors c'est la méthode les pédagogues, si vous voulez, ont théorisé cette approche dans une méthode pédagogique qui a été utilisée. Et bon, alors on observait le problème, et puis on l'interprétait, on en tirait des conclusions, et puis cette conclusion, qui n'était toujours qu'une conclusion provisoire, était reprise pour permettre aux travaux de persévérer et de gagner en pertinence et en profondeur.
Ça, c'est donc la deuxième conférence qui aura lieu cet après-midi.
Et la deuxième conférence aura lieu le 15 octobre.
Il y a un deuxième rendez-vous le 15 octobre.
C'est toujours un vendredi de 15 à 17 heures. Ouais. Et donc, là, nous avons sollicité un ancien chef de service d'un service de réanimation des hospices civils de Lyon, Jean-Jacques Lehaut, qui viendra nous parler des maladies infectieuses et de la réanimation. Et un autre conférencier, Marc Galavardin, qui est un médecin en retraite qui exerçait à Montmerle, viendra nous parler du masque dans tous ses états, c'est-à-dire le masque vénitien, le masque chirurgical, le masque mortuaire, le masque de théâtre, etc., etc., les masques industriels.
On a oublié que ça avait d'autres fonctions que ces masques qu'on a obligé de porter tout à tous fait.
Le masque,
avant, ça servait à se déguiser. Très bien. Comment est-ce que vous choisissez vos conférences, vos thématiques? Comment est-ce que vous choisissez les conférenciers? Qu'est-ce qui se passe dans le côté qu'on ne voit pas de l'association Claude Bernard?
Oui, tout à fait. Alors, d'une part, la première ou la deuxième conférence doit avoir un lien fort avec les travaux de Claude Bernard.
D'accord.
Nous trouvons généralement des conférenciers parmi le corps médical, voire le corps scientifique. Beaucoup de gens se sont intéressés. Notre président, par exemple, René Haber, n'est pas médecin. Il était... C'était un professeur de physiologie animale à l'École nationale supérieure de Paris. Donc il n'est pas médecin, mais il s'est beaucoup intéressé à ses travaux. Et puis le deuxième thème, nous recherchons des gens qui ont une connaissance, qui ont déjà donné des conférences, qui sont intéressés à les donner au musée Claude Bernard et qui se mettent volontiers et bénévolement à notre disposition pour pouvoir animer une conférence qui dure en général une heure et demie.
Avec les thématiques scientifiques.
Alors, et le sociales. Choix, voilà. Alors, on connaît leur thème de prédilection. Et il y a un comité des conférences au sein de l'association qui choisit le thème.
D'accord. Donc voilà comment ça se passe à l'association Claude Bernard. Voilà. Est-ce qu'on peut adhérer à l'association pour suivre le cycle de conférences, recevoir les informations?
Alors, le cycle de conférences n'est pas réservé qu'aux adhérents, qui sont bien évidemment volontiers accueillis et à titre gratuit. Mais nous encourageons le public, et notamment le jeune public, à venir à ces conférences. Alors c'est sûr que pour le jeune public, le vendredi après-midi de 15 à 17 heures, ce n'est pas compliqué. Tellement indiqué. Ouais. Mais pour la modique somme de 5 euros... tout le monde peut assister à ces conférences et sans inscription préalable, il suffit d'arriver sur le parking du musée Claude Bernard à Saint-Julien quelques minutes avant et puis ils seront accueillis. J'accueillerai moi-même les gens cet après-midi et ils seront accueillis dans la salle et ils pourront écouter et poser des questions aux conférenciers. Ouais.
Ça reste interactif les conférences, c'est important qu'il y ait un échange
Mais
possible.
Tout à fait, et d'ailleurs... c'est ce qui s'était passé lors des précédentes conférences. Vraiment, le succès a été au rendez-vous.
Donc, rendez-vous dès cet après-midi, ce vendredi 24 septembre, à partir de 15h, à la salle polyvalente du musée Claude Bernard. Et puis, le prochain rendez-vous, ce sera le 15 octobre. Vous en avez parlé.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Robert Hanskens, d'être venu nous parler de l'association Claude Bernard.
Merci à vous de m'avoir invité à le faire et je vous souhaite une excellente journée ainsi qu'à vos auditeurs.
Très bonne journée.
Ensemble sur Calade.
La thématique de cet après-midi, des conférences de cet après-midi, l'une des conférences aborde le dictionnaire de Trévoux. Je vous propose d'écouter Mansfield Tia qui chante le dictionnaire Larousse.
Je 1903. M'attarde sur bordure, amère et brousse. Il y a là de quoi passer une nuit entre amour et zoophilie. Je vois page 267, des cache-pots, des cache-nez, des cachettes, des cachalots à mâchoire sans dents. Le nerf facial, corde du tympan. Il y a la photo de Fernand Fourreau, dont personne n'a rien à cirer. Je regarde la mort, page 303. J'apprends les signaux à bras utilisés par les marins, puis je lis la définition. Se trouve en Belgique, les ruines du Parthénon côtoient les paralytiques. Pas de photos de Brigitte Bardot, mon dictionnaire est démodé. J'apprends tout de même que Ecce Homo ne veut pas dire être pédé. Je regarde la mort, page 303.
Mansfield Tia sur Calade avec le dictionnaire Larousse, et c'est chanté aux côtés de Birds on a Wire.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Eh oui, il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, vous allez bien ?
Ça va très bien, toujours la forme.
Bon, tant mieux. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je fais mon prof Patrick, c'est-à-dire que je ne vais pas parler d'un sujet spécialement d'actualité, je vais parler d'un thème, histoire d'apporter un peu de connaissances dans l'esprit de personnes qui n'auraient pas toutes les notions économiques. Alors, je vais donc présenter un aspect important du fonctionnement des grandes entreprises, c'est la façon dont elles stockent leurs données informatiques.
Ouais.
Et là, Mathieu, je vois ta tête, j'entends même la petite voix dans ta tête, tu dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être barbant, cette histoire.
Non, pas forcément, parce que c'est les données informatiques des entreprises, parfois c'est nos données personnelles.
Alors, t'es pas seulement un gentil garçon, tu es malin. Tout à fait, exactement, tu as déjà anticipé la suite. Alors, je vais présenter les choses autrement pour que ce soit un peu plus fun, on va dire. Aujourd'hui, on va parler du cloud.
Ouais.
Ah, tout de suite, le cloud, hein, on tend l'oreille, ça fait moderne, on se dit, ah, c'est quoi le cloud, etc., etc. Donc, j'accroche le poisson un peu plus efficacement. Eh bien, c'est la même chose, en fait, le cloud. C'est la façon dont beaucoup d'entreprises choisissent de stocker leurs données. Alors, cloud, en anglais, ça veut dire nuage. Dans les nuages, c'est une bonne blague. Hein, c'est chouette, c'est poétique, sauf que c'est pas dans les nuages du tout. Non. Les nuages, ça fait les petits oiseaux, l'air frais, on est loin des vilaines émissions de CO2.
Ouais,
on pourrait pas être plus loin de la réalité, en fait, avec le cloud. Hein. Explication. Le cloud, c'est d'abord le choix d'une stratégie, qu'on appelle de sous-traitance, qui consiste à confier à une entreprise extérieure une partie de son activité. En l'occurrence, confier à une entreprise extérieure le stockage de toutes les données que l'entreprise détient et qui lui sont indispensables pour fonctionner, hein, aussi indispensables que l'air que nous respirons, on revient à la métaphore. Oui, mais alors, si c'est si important, pourquoi on confie cette tâche à une entreprise extérieure?
Bah, parce qu'ils sont plus compétents, que ça demande du matériel, etc.
T'es trop malin, c'est exactement ça. C'est parce qu'ils savent faire ça mieux que nous et moins cher. En sciences de gestion, on appelle ça une stratégie d'externalisation ou, terme plus récent, encore plus à la mode, stratégie d'impartition, confiée à une entreprise extérieure une partie de son activité. Ce choix du cloud par beaucoup d'entreprises et même des très grandes entreprises depuis 20 ans est en progression forte et constante. Parce qu'en fait, les progrès de l'informatique et l'augmentation faramineuse des volumes de données à stocker sont tellement rapides que même les plus grandes entreprises ont compris qu'il valait mieux confier ça à des spécialistes. Alors, quelques petits chiffres. On comptait en 2006 11 millions de data centers. Un data center, c'est un énorme entrepôt dans lequel il y a des dizaines ou des centaines de serveurs qui eux-mêmes stockent des quantités de données pas possibles. On est passé de 11 millions en 2006 à 18 millions de data centers en 2020, donc on voit que ça progresse. Alors un exemple parmi tant d'autres, hein, pour mettre du concret, on va dire, la société Netflix que tout le monde connaît, bon, on se doute bien que la maîtrise des technologies numériques, ça va, hein, ils maîtrisent bien,
oui,
d'accord ? Ben, pour autant, ils ont choisi la voie du cloud.
Ah ouais ?
Et ils ont confié leurs données à Amazon.
C'est marrant.
Et oui, c'est marrant parce que Amazon n'est donc pas que le leader ultra dominant de la vente en ligne, c'est aussi le numéro un mondial du cloud.
Ouais.
Et pour information, l'essentiel des bénéfices que réalise Amazon viennent du cloud, ne viennent pas de la vente en ligne. La vente en ligne, ça génère quasiment aucun bénéfice pour Amazon, parce qu'ils cassent les prix de partout, et puis ils ont des charges assez lourdes. Non, c'est sur le cloud qu'ils se font des bénéfices, Amazon. Alors tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que c'est suffisant pour faire une chronique Prof Patrick digne de ce nom? Tu connais mon côté pinailleur Mathieu, tu te dis qu'il doit y avoir anguille sous roche.
Bah, y a un sauve-queue qui devrait tomber quelque part.
Hein. Ah ouais, voilà. En fait, on va parler de deux grosses anguilles sous roche et on va laisser de côté les petites anguilles, hein, d'accord ? Donc la première grosse anguille, ça s'appelle, ça fait référence au terme de dématérialisation, économie dématérialisée. Quand on parle du numérique, on parle souvent ça, hein. C'est dématérialisé. Rien n'est plus faux, encore une fois, que ce terme dématérialisé, parce qu'il n'y a pas plus matériel que le monde numérique en général. Le cloud, c'est du matériel du début à la fin. C'est des smartphones, c'est des ordinateurs fixes, c'est des ordinateurs portables. Tout ça, c'est chez les donneurs d'ordre en amont. Et en aval, chez l'hébergeur, c'est d'énormes serveurs, comme je l'ai dit, d'énormes ordinateurs entassés dans des entrepôts gigantesques qu'on appelle des data centers. Tout ce matériel est très vorace en métaux rares. Tu te souviens les métaux rares, Mathieu ?
Bien sûr.
Métaux qui sont très polluants. Alors, on a fait une chronique sur la voiture électrique fin juin. Mm-hmm. On en a parlé. Hein. Donc, ceux qui veulent savoir, connaître l'aspect extrêmement polluant des métaux rares, eh bien, allez écouter la chronique sur la voiture électrique dans le podcast Prof Patrick dans l'émission Tous ensemble sur Calade dans radio-calade.fr. Mais tout ce matériel, c'est aussi un matériel qui est très, très vorace en énergie, qui consomme énormément d'énergie. Notamment par le fait que ces data centers, ça chauffe, en fait.
Ouais, faut les refroidir.
Voilà, il y a des frais de refroidissement qui sont incroyables, à tel point que beaucoup d'hébergeurs type Amazon vont installer des data centers dans des pays très froids.
Ah ouais,
très au nord pour bénéficier du froid environnant et donc diminuer les coûts de refroidissement.
Faire chauffer le pôle Nord.
Exactement, tout à fait. Alors, bien sûr, le progrès, c'est aussi de l'efficacité énergétique qui augmente chaque année. Hein. Chaque année, à puissance égale, les serveurs consomment 5% de moins de consommation énergétique. Donc c'est bien, ça progresse. Sauf que comme d'habitude, l'effet rebond vient gâcher la bonne nouvelle.
C'est-à-dire ?
L'effet rebond, c'est le fait qu'en fait, l'augmentation en volume d'utilisation compense largement les gains unitaires. Donc, la consommation énergétique des data centers, de l'ensemble du cloud, représentait déjà 4% de la consommation d'énergie mondiale en 2015. Et elle augmente de 5% par an. Concernant l'Europe, il y a une étude qui a été commanditée par Bruxelles, hein, l'Union européenne, qui indique qu'elle augmenterait de 28% d'ici 2030, entre aujourd'hui et 2030. C'est ennuyeux parce qu'en fait, l'objectif de l'Union européenne, c'est que le secteur du cloud atteigne la neutralité carbone en 2030, donc aucune émission nette.
Ouais.
Donc, autant dire qu'on est mal barré pour atteindre cet objectif. Ça, c'était le premier, la première anguille sous roche, hein, la consommation énergétique, le côté numérique destructeur au niveau des matériaux utilisés. Mmh. La deuxième anguille, c'est, tu l'as évoqué au tout début, car tu es malin, Mathieu.
Ah, c'est les données personnelles.
Exactement, ces données qui sont stockées, et bien beaucoup d'entre elles, ce sont nos données personnelles à nous, à vous et moi, chers auditeurs. D'où la question qu'on va poser quand même, qui a accès à ces données qui sont stockées sur le serveur ? Ton avis ?
Ben, je sais pas, j'ai peut-être peur de le savoir.
Bon, a priori,
pas tout le monde, quand même.
C'est le propriétaire de l'entreprise qui a ces données. Lui, il y a accès, bien entendu. Tu notes qu'on va laisser de côté aujourd'hui la question du pourquoi. Pourquoi l'entreprise détient nos données personnelles ? Est-ce qu'il est légitime qu'elle les détienne ? Ça, c'est une vaste question, mais on va la laisser de côté pour aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'une autre chronique. En théorie, donc, l'hébergeur, c'est-à-dire Amazon pour Netflix, n'a pas le droit de se servir d'utiliser les données personnelles qu'il héberge.
D'accord, ouais.
D'accord ? Sauf que, tu voulais un sauf que, le voilà, il est là le sauf que. Eh ben, sauf que cette entreprise, elle est états-unienne, hein, nationalité américaine, États-Unis, et donc elle est soumise à un principe juridique qui est le principe d'extraterritorialité de la loi américaine. Alors c'est un principe génial, hein, parce que ça dit que même si les data centers qui appartiennent à Amazon sont hors des États-Unis, eh ben, le gouvernement américain peut exiger l'accès à ces données qui pourtant n'appartiennent pas à Amazon. Formidable le principe d'extraterritorialité.
Donc le gouvernement américain peut avoir accès à toutes les données.
Toutes les données dans des entreprises
des
étrangères,
entreprises américaines.
Quelles qu'elles soient. Alors, je vais donner un exemple bien marquant et bien concret pour que les auditeurs comprennent jusqu'où ça peut aller. Tout le monde connaît Doctolib.
Oui, bien sûr. Ouais.
Hein, la bonne vieille licorne française, brillante, qui désormais détient une belle quantité de nos données de santé personnelle. Pour information, d'ici 2022, il est prévu que Doctolib, qu'il y ait 90% des Français qui passent par Doctolib pour des prises de rendez-vous, des choses comme ça. Où est-ce qu'elle stocke ces données ?
Doctolib ? Amazon.
Eh ben ouais, chez Amazon.
Ouais, bien sûr.
Donc ça veut dire que potentiellement, un jour, si le gouvernement américain décide, il peut aller piocher dans les données de santé personnelle des Français. Alors Doctolib dit « Oh, mais elles sont cryptées. » Ouais, ouais, mon gars, t'as raison, elles sont cryptées et ils ne sauront pas décrypter, hein, les Américains. Non, on sait qu'ils sont nuls. Conclusion à tout ça.
Ouais.
Alors, première conclusion, assez simple. Hein, les entreprises qui ne veulent pas prendre le risque de voir leurs données saisies par le gouvernement américain, eh bien, il existe un hébergeur concurrent d'Amazon, évidemment moins gros, qui est français, qui s'appelle OVH.
Ouais.
OVH, toute son identité, toute sa différenciation se fait sur l'assurance que les données qu'ils stockent pour leurs clients sont vraiment protégées, notamment des appétits de gouvernements comme les Américains. Bon, alors tu vas me dire, ouais, mais OVH, il y a 6 mois, il y a leurs entrepôts qui ont brûlé.
Je n'osais pas en parler. Ouais.
Mais si, parlons-en. Ben oui, c'est la vie comme ça. Des fois, on se plante. Des fois, on perd les données de ses clients. Bon, ouais. C'est pas bien pour l'image. Hein. Mais ça fait rien. C'est quand même une entreprise intéressante, OVH. Mais bon, les conclusions, c'est pas là. Première conclusion, et si on réfléchissait à l'utilité réelle de tout ce que nous stockons ? Les volumes immenses concernent des données qui n'ont à peu près aucun intérêt. Des vidéos à la con, des films, et les évolutions vers la 5G et l'Internet des objets dont on a parlé il y a quelques temps. Ça va multiplier les volumes, ça va charger la barque, mais dont on sait pertinemment que ça sera, encore une fois, pour la plupart, des données inutiles.
Bah, des photos de chats avec des chapeaux.
Voilà, toutes ces Et ça, ça a des conséquences de consommation énergétique et donc de réchauffement climatique terribles. Deuxième conclusion, et si on commençait à pourrir la vie à tous ceux qui stockent encore et encore nos données personnelles ?
Ah oui, comment on peut faire ça ?
Bah déjà, on peut le faire tous les jours et je suis sûr que tu le fais ou pas, sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu vas sur un site, le site te propose d'accepter ou de refuser ces cookies qui servent à utiliser tes données. Eh bien, il est très simple, il s'agit de cliquer « refuser » systématiquement.
Ouais.
Et là, c'est fini, le site ne peut pas collecter vos données personnelles. Deuxième chose qu'on peut faire également, alors là, je vais faire une petite promo d'une start-up française que j'ai découvert il y a peu de temps. On peut découvrir l'offre géniale d'une start-up qui s'appelle Yodé, qui est toulousaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Yodé, c'est une start-up qui vous propose des smartphones équipés d'un système d'exploitation qui, tiens-toi bien, bloque totalement toutes les tentatives de captation des données personnelles qui sont dans le smartphone.
Ouais.
Ça bloque tout. C'est vraiment un truc génial. Votre smartphone devient ainsi l'arme fatale pour se défendre face à tous les Big Brother qui veulent bouffer vos données personnelles. Donc je mettrai dans le podcast le lien hein, pour aller voir cette entreprise. Alors on pourrait dans l'absolu installer le système d'exploitation sur son smartphone, mais c'est d'une effroyable complexité. C'est pour ça qu'ils préfèrent nous vendre soit du neuf, soit du reconditionné avec leur système installé. Donc moi, je conseille à tout le monde d'aller chez Yodé et d'acheter un smartphone chez Yodé. Et là, vos données dans les smartphones, elles restent chez vous.
Elles restent protégées. Très bonne
idée. Exactement. J'en ai terminé, Mathieu.
Je rajoute l'idée de supprimer ces vieux mails qui ne servent à rien et qui remplissent les data centers, en fait.
Totalement.
Qui font consommer de l'énergie pour
eux. Ouais.
Ça peut être
tout à fait.
Merci beaucoup pour ces conseils, Prof.
C'est un plaisir.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
Emma Peters, tout de suite, de la petite chanson française, toute douce, toute jolie, avec le titre Le temps passe.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes bras froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai de notre premier film. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
C'était Emma Peters sur Kelad avec Le temps passe. Je vous propose de découvrir une autre nouveauté. Damon Albarn, l'homme derrière Gorillaz, derrière Blur, un génie de la musique britannique, a sorti le titre Royal Morning Blue. Et c'est tout à son image.
Time memory.
Royal Morning Blues, c'était Damon Albarn sur Calad.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calad.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Et le disquaire, il est avec nous par téléphone, c'est Pitch. Salut.
Une fois de plus, j'ai l'impression qu'on dialogue ensemble tous les jours.
C'est vrai, c'est vrai, cette semaine, on t'a beaucoup entendu sur nos ondes.
C'était hier, avant-hier.
Mercredi, oui,
tu étais
avec nous.
Ouais.
En direct, en tant qu'invité. Aujourd'hui, tu es là en tant que chroniqueur pour nous proposer ton choix musical de la semaine. Alors, l'album que tu nous proposes d'écouter ce week-end, qu'est-ce que c'est ?
Alors, très content d'avoir l'opportunité de vous parler d'un de mes compositeurs multi-instrumentistes préférés français. Qui a une renommée mondiale, qui a eu un succès mondial a posteriori. Il s'agit de François de Roubaix.
ton compositeur préféré venant de toi, eh ben, on ne s'y attendrait pas. Qu'est-ce qui te plaît tant dans François de Roubaix, toi, le fan de hip-hop?
Ouais, le génie, bah, tu sais, il y en a plein qui l'ont samplé hein, dans le hip-hop. Il y a plein de producteurs, de beatmakers. Moi, d'ailleurs, indirectement, j'ai découvert François de Roubaix. Alors oui, dans des films avec Belmondo, avec Delon, mais je m'intéressais pas au crédit de la musique à cette époque. Il y a beaucoup de producteurs qui l'ont samplé. Il y a eu des gros tubes internationaux, dont le tube le plus connu de Robbie Williams sur le thème de Dernier domicile connu.
D'accord.
Voilà. Et d'autres. J'adore le génie, le côté le gars, il utilisait des machines. Il y avait une exploration musicale. Il n'y avait aucune barrière. Il y avait un truc infini dans ce qu'il pouvait proposer. Donc là, alors, on parle d'un album qui sort chez Transversal, un petit label parisien qui est distribué par Pusher. Ouais. Il sort en début d'année. Et c'est la BO d'une série TV qui sortait en France dans les années 60-70. C'était Les Secrets de la Mer Rouge.
Ouais.
Alors ça a mis très longtemps à sortir en physique, c'est sorti en 2003 en CD. Et là tout récemment donc ils ont sorti une édition vinyle. Et donc voilà, c'est l'occasion de parler de François de Roubaix
Et d'écouter sa musique.
Un géant François de Roubaix moi j'adore quoi, c'est de l'électro, c'est avant-gardiste, c'est des musiques, des thèmes, c'est à part. Il faut savoir que le gars était passionné de plongée sous-marine. D'ailleurs, il en est décédé à 36 ans. D'accord. Il est mort d'un accident de plongée sous-marine. C'était un ovni. Donc, je trouve super que des petits labels récupèrent des masters et continuent de faire vivre son art.
Et compositeur de musique de film exclusivement, ou il a fait d'autres...
Non, il était beaucoup dans le cinéma quand même, dans la musique de film, mais non, il a fait d'autres choses. Il a fait des conneries comme Chapi Chapeau, je sais pas si tu te souviens.
D'accord.
Voilà, le générique Chapi Chapeau.
Chapi Chapeau, bien sûr, ouais.
Mais ouais, c'était fou à l'époque, ça. Bah, c'était qui? C'était François de Roubaix.
Ah, je savais pas, incroyable.
Ouais. Et d'autres trucs, hein, hyper connus, hein. Les Chevaliers du Fiel, c'est lui aussi, tu vois, en 67. C'est sa toute première apparition d'ailleurs. Enfin, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Quoi.
François de Roubaix. Et donc.
Et je pense que ça correspond au changement de saison. Tu vois. C'était... Là, on arrive, nous sommes en automne.
Ouais.
Et c'est juste parfait. Pour moi, c'est des musiques de transition. On passe à un autre cap. On tourne la page. Tu vois, ça exprime ça pour moi, vraiment.
Il faut écouter du François de Roubaix en ce moment. Et donc, l'album Les Secrets de la Mer, qui est réédité par le label Transversal Disc. Ouais, Les Secrets de la Mer Rouge. Merci beaucoup, Pitch. Je rappelle qu'on te retrouve tout le week-end pour le 33 Tours d'Horloge à ta boutique à partir de demain,
10h. 33h non-stop, c'est ça, à fond.
Allez, et ben on se quitte avec quelques notes de François de Roubaix. Merci beaucoup, Pitch.
À demain.
À demain, ciao, ciao. Adieu de François de Roubaix, extrait de l'album Les Secrets de la Mer Rouge. C'est le choix musical de Pitch pour terminer cette émission Ensemble sur Calade. Très très bon week-end à toutes et à tous. Rendez-vous lundi à 12h12. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.